Hello, hello les nénés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aïe Néné. Mon interviewée du jour s'appelle Asma. Son ancien nom était Kilgreen, peut-être que ça vous dit quelque chose. Asma est une Instagrammeuse, une créatrice de contenu, qui nous partage quotidiennement ses bons plans, ses coups de cœur et ses pensées écolo-féministes antiracistes. Et oui, Asma a une triple casquette, voire quadruple casquette, puisqu'en plus de tout cela, Asma est une maman. Elle est la maman d'un petit garçon de 20 mois. Et aujourd'hui, nous allons discuter de tout cela, de son engagement écolo, de son engagement féministe, de son vécu avec le racisme et de la façon dont elle souhaite éduquer son fils dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous plaira, et si c'est le cas, alors n'hésitez surtout pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, à commenter l'épisode sur Instagram et à le partager. Bonne écoute!
Coucou Asma, comment tu vas?
Ça va, merci. Et toi, Adia?
Ben ça va, je te remercie. Alors Asma, merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui.
Merci à toi.
Je t'en prie. Je trouve que c'est plutôt cool ce que tu fais, ce que tu partages un petit peu sur Instagram. On s'était rencontrés il y a longtemps à un événement à Sigélie. Tu te souviens?
Oui, il y a des années.
Ouais, c'était il y a super longtemps. Et au final, tu as quand même eu une évolution. Enfin, tu as une évolution par rapport à ce que tu proposes, par rapport à ce que tu partages. Et tu es devenue maman aussi. Donc voilà, donc pour moi, c'était vraiment important de t'avoir aujourd'hui pour qu'on puisse discuter un petit peu des causes qui te tiennent à cœur et de l'éducation des bébés loups.
Bah, écoute, avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. J'ai trop hâte.
Cool. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, alors je m'appelle Asma, j'ai 31 ans, je suis créatrice de contenu sur Internet à temps plein, c'est mon métier, et je suis maman d'un petit garçon de 20 mois.
Ah, c'est cool.
Il a fait 20 mois aujourd'hui en plus.
Oui, ah, c'est ça. Joyeux mon anniversaire. Alors Asma, est-ce que tu peux nous dire de quelle origine est-ce que tu es?
Oui, je suis marocaine de mes deux parents.
D'accord, et bébé loup?
Alors bébé loup est marocain de mon côté et japonais du côté de son papa.
Ah, c'est cool. On va discuter de ça un petit peu après, du brassage de culture. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous parler de toi? Tu es née en Corse. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment était ton enfance là-bas?
Moi, je suis née en Corse en 1990. Et c'était une époque où les problèmes n'étaient pas encore arrivés, tu sais. Genre, la France était encore bien glorieuse, tout allait bien et tout. J'ai grandi jusqu'à mes 10 ans en Corse, donc on habitait une petite maison, je suis née entourée d'animaux, c'était trop cool. J'ai des très 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 bons souvenirs de mon enfance. On a grandi donc avec ma petite sœur qui a 3 ans de moins que moi et mes cousines qui ont du coup 4 ans et 5 ans de moins que moi. Donc on a grandi comme ça vraiment très très en famille avec aussi les enfants des amis de mes parents, tu sais qu'on appelle les cousins et les cousines.
Ouais, les fameux.
Ouais, donc on a vraiment grandi dans un super environnement avec des poules, des chiens, des chats. J'avais même une chèvre, c'était trop cool.
T'avais une chèvre?
Oui.
C'est pas commun.
Ouais, non, c'était trop bien. Ben, on avait l'espace pour. Et du coup, on a quitté la Corse quand j'ai eu 10 ans.
D'accord.
Et je suis arrivée à Montpellier à mes 10 ans.
D'accord. Et la transition alors entre la Corse et Montpellier, ça s'est passé comment?
C'était hyper dur pour moi. Ouais. C'était hyper dur parce que mine de rien, à 10 ans, tu es bien, bien conscient des choses en réalité. Mmh. Et du coup, je suis passée d'un environnement où j'avais le droit de faire tout ce que je voulais, où j'avais plein d'espace, à un appartement déjà. Donc, il y avait des voisins, tu vois.
Ah oui, ou pas.
Il fallait pas faire de bruit. Donc, on est arrivé d'une maison à un appartement et puis d'un environnement où c'est vrai qu'on n'était pas, beaucoup de Marocains ou de personnes racisées de façon globale dans ma classe ou dans mon école, à le contraire, puisqu'en fait, on s'est installé dans le quartier populaire montpelliérain qui s'appelle La Paillade. Et du coup, tout d'un coup, ça avait complètement changé.
Ouais.
Complètement, complètement changé. Du coup, j'étais entourée d'enfants qui me ressemblent et c'était la première fois que ça m'arrivait.
Et tu te souviens un petit peu du sentiment que tu as eu à ce moment-là ou pas?
Mais je me suis dit, mais on est beaucoup en fait.
On n'est pas 5.
On n'est pas genre 5 qui se battent en duel, tu vois. Genre, je me suis dit, ah, mais on est plein et tout, c'est trop cool. Mais du coup, j'étais en décalage complet parce que j'avais pas les mêmes codes qu'eux, tu vois. Ouais. Autant eux, ils ont grandi, avec la certitude d'être à l'aise, puisqu'en fait, ils étaient nombreux et du coup, ils cachaient pas leur culture. Et moi, c'est vrai qu'en Corse, c'est une région qui est pas très, pas très safe, on va dire. Ouais. Et niveau racisme et tout. Donc, c'est vrai qu'on a évolué en cachant un petit peu cette partie de notre identité-là. Même nos parents avaient peur de ça. Donc, ils effaçaient ce qui était possible d'effacer. Et c'est vrai que ça m'a fait tout bizarre. Genre, je comprenais l'arabe jusqu'à mes 10 ans, mais je parlais pas du tout. Et là, j'entendais des enfants parler arabe et tout. Et ça m'a donné envie. Et du coup, j'ai appris et tout à partir de mes 10 ans, quoi.
D'accord. Bah, c'est cool, au final, ça t'a permis de te rapprocher de ta culture.
Mais complètement, complètement. Ouais. Et même mes parents, j'ai vraiment la sensation qu'ils se sont sentis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus libres dans leur culture et dans leur pratique religieuse.
Ouais. Mais c'est vrai que ça change un petit peu de ce que tu as vécu avant. Donc, tu t'es sentie un petit peu étriquée par rapport à l'environnement puisque tu as quitté la nature et les animaux, mais ça t'a permis de pouvoir évoluer et te... Enfin, comment dire ? Ouais, évoluer tout simplement avec ta culture d'origine.
C'est ça, complètement. Ouais. Et à chaque fois, je le disais à mes parents, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, je leur disais, mais merci d'avoir déménagé ici, parce que je suis trop contente, en fait, d'évoluer dans ma culture, quoi.
C'est vrai que t'aurais pu avoir un avenir totalement différent si t'étais restée en Corse.
Ah oui, ça c'est sûr. Même une façon d'appréhender la vie totalement, totalement différente, ça c'est sûr.
J'imagine. Et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire et ton parcours professionnel ?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu un bac ES, donc je l'ai eu à Montpellier. Puis j'ai déménagé en région parisienne à mes 18 ans, le grand bac. Ouais, et du coup, j'ai fait un BTS banque en alternance. Puis après, j'ai fait une école de commerce pendant 3 ans, donc jusqu'à mon master 2. Je me suis spécialisée dans le marketing.
Comme beaucoup.
Et donc, j'ai fait tout mon parcours en alternance. Donc, ce qui est cool, c'est qu'en fait, j'ai fini mes études à 23 ans et j'avais déjà 5 ans d'expérience quasiment derrière moi. Donc, c'était bien. Du coup, après, j'ai évolué dans le monde des banques et des assurances. Et puis au bout d'un moment, en fait, ça ne convenait plus en termes d'éthique, puisque à côté j'ai eu ma prise de conscience écolo et je ne pouvais plus évoluer dans ce monde-là. Parce que, en gros, mon taf, finalement, c'était de rendre glamour des assurances d'essai, des assurances vie et des produits bancaires. Enfin, c'est horrible, quoi. Et j'arrivais plus, en fait. J'étais vraiment en dissonance cognitive et je pouvais plus. Et puis, il y a aussi mon caractère qui fait que je pense que j'ai un peu de mal avec l'autorité. En fait, je me disais, genre, tu vois, j'allais au travail, je me disais, mais comment ça, moi, je suis fatiguée et je passe ma journée à faire de l'argent pour un mec que je connais même pas.
À vendre des choses à des gens qui n'en ont pas besoin aussi. Mais
ouais, clairement, clairement, clairement. En plus, moi, j'ai été sur le terrain quand j'ai fait mon BTS banque. Donc, tu vois, j'ai eu la casquette de conseillère. Enfin, tu vois, même si je n'avais pas toutes les accréditations, mais j'ai été conseillère. Et genre, quand tu vois les objectifs, tu te dis, tu dois vendre coûte que coûte un truc dont les gens n'ont absolument pas besoin. En fait, tout ça a fait que... Au bout de quelques années, je me suis dit non, faut que je me mette à mon compte. Mais c'est aussi parce que à côté, j'ai lancé une activité de blogging. Donc moi, j'ai commencé en 2014 et finalement, la sauce a bien pris et je suis arrivée à un moment où genre je finissais un CDD et c'était genre soit je continue en CDI, soit je me mets à mon compte. Et j'ai pris le risque de me mettre à mon compte. Alors mes parents, les pauvres, tu sais, eux, ils ont tout sacrifié pour qu'on ait un métier stable, pour qu'on ait un CDI et tout et tout. Et ils me disaient, mais t'as fait toutes ces études à la fin de me mettre à ton compte et tout.
Pour écrire sur Internet.
C'est ça, c'est pas concret en fait. Pour eux, c'est pas, enfin, ils voient pas tout ça. Donc, ça a été un sacré risque. Après, c'est vrai que j'avais la sécurité d'avoir mon mari et d'avoir quand même la stabilité à côté. Donc je me suis dit, allez, tout est aligné pour le faire et je l'ai fait et aujourd'hui je ne regrette pas, je suis trop contente d'être à mon compte aujourd'hui.
Ah, c'est cool. Et donc tout à l'heure, tu as dit que tu as eu une prise de conscience écolo, mais comment est-ce qu'elle est venue en fait ?
Alors, c'est arrivé. Comment ? C'est que j'avais de l'acné en fait. J'avais 21 ans et j'avais une acné qui ne voulait pas s'en aller. J'en avais marre. Ça faisait 10 ans que je me tapais des boutons. Et je me suis dit, bon, j'ai tout testé. J'ai testé les dermatos, j'ai testé les cachets, j'ai testé ci, j'ai testé ça, j'ai testé les routines hyper chères de chez Sephora et tout. Et en fait, j'ai grandi dans une culture finalement de, où la beauté naturelle, elle a une part hyper importante, genre huile d'argan, henné, tout ça, j'ai toujours connu en fait en, ouais. en grandissant et tout. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais regarder du côté des soins naturels et tout, voir ce que ça donne. Et j'ai fait quelques recherches, j'ai vu des trucs, j'ai commandé des petits trucs par-ci, par-là, j'ai vu que ça avait un super effet. Je me suis dit, ok, bon, bah continuons. Je me suis renseignée, du coup, je suis partie. En fait, moi, je suis entrée par la porte cosmétique.
Ouais.
Donc, je me rends compte que les cosmétiques, en fait, y a des dangers, ça crée des maladies, c'est polluant. Et puis, en fait, au fur et à mesure, ça a été un cercle vertueux puisque des cosmétiques, c'est passé à mes produits ménagers. Puis après, c'est passé à tout mon mode de vie. En fait, je me suis rendu compte que tout était lié et que ce qu'on consommait, c'était pas très, voilà, hein, pas très safe. Et du coup, bah, c'est comme ça que ma prise de conscience est arrivée. Et au fur et à mesure, ça a touché tous les aspects de ma vie, quoi.
D'accord. Et au fil du temps, donc, tu es passée d'une conscience écolo à quelque chose d'un peu plus engagé au niveau de l'antiracisme, par exemple. Comment est-ce que la transition s'est faite?
Alors, la transition, elle s'est faite, en fait, c'était pendant ma grossesse, en 2019, j'ai regardé sur Netflix comment ça, dans leur regard, donc la mini-série. Donc moi, je vis le racisme depuis que je suis toute petite, en Corse notamment, je l'ai beaucoup, beaucoup vécu. Et puis après, enfin, dans tout mon parcours, je l'ai vécu. Mais en fait, je ne le conscientisais pas. Pour moi, c'était normal.
Normal.
Et surtout, je ne voyais pas l'aspect systémique de tout ça et tout. Et donc, j'ai regardé ce documentaire dans leur regard. Et en fait, ça a fait comme un déclic. Et je me suis dit, non, mais en fait, j'ai une plateforme, j'ai des gens qui me suivent. Je pense que c'est important que moi, en tant que femme racisée musulmane en France, je prenne la parole et que j'alerte en fait toutes ces personnes qui me suivent. Alors, peut-être que ça va les secouer, peut-être que ça ne va pas leur plaire, mais je ne peux plus rien faire. Et c'est là où j'ai commencé à prendre la parole. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressée à plein de trucs, plein de comptes Instagram qui étaient hyper instructifs et tout et tout. Et j'ai lu, j'ai beaucoup lu. Et en fait, c'est devenu une part, de mon travail d'éduquer les personnes aux luttes sociales. Donc, il y a l'antiracisme, mais il y a aussi le féminisme intersectionnel. Puisqu'en fait, il y a plein de choses à revoir, quoi. On a plein de choses à revoir dans la société qui est la nôtre aujourd'hui. Et finalement, au fur et à mesure de mes lectures, je me suis rendu compte que tout était absolument lié en fait, l'écologie et l'antiracisme et le féminisme, l'écologie sans la lutte sociale et la lutte sociale sans l'écologie, ça n'existe pas et ça ne fonctionnera pas. Ça ne sert à rien de vouloir sauver la planète si au final on reproduit les mêmes injustices. Comme ça ne sert à rien de lutter contre les injustices si à côté on laisse la planète crever, tu vois. Donc en fait c'est vraiment, ça converge finalement et je me dis que quand on a une conscience écologique, eh ben, forcément, on a cette aspiration à avoir cette envie de justice. Et tout va ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a intégré complètement ma ligne édito.
D'accord. Et ça a été quoi la réaction de tes abonnés quand tu as commencé à avoir ce type de contenu?
J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'unfollow. Beaucoup de personnes qui me disaient, bah, je suis là pour que tu me donnes des recettes de beauté.
Pas pour que tu me parles de lutte.
De racisme, quoi, et de lutte. J'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont quitté mon compte Instagram et tout. Ça m'a mise en colère au départ parce que je me disais, mais c'est injuste. Aujourd'hui, je le comprends, oui et non, parce que je comprends que certains utilisent les réseaux sociaux pour chill et pour juste voir des. Enfin, s'évader, quoi. Après, moi, je trouve qu'Instagram, c'est un outil fabuleux pour. Pour s'éduquer, pour s'instruire. Et comme je te disais précédemment, je ne me voyais pas me dire, j'ai des centaines de personnes qui me suivent, j'ai une voix et je ne l'utilise pas, tu vois. Donc voilà, maintenant, après, il y a eu une période un peu compliquée où voilà, plein de gens sont partis et finalement, y en a plein d'autres qui m'ont rejoint et qui sont totalement d'accord avec mon côté un peu hybride où je parle de crème un jour et le lendemain, je vais taper du poing et je vais exprimer mon mécontentement sur X ou Y raison, quoi.
D'accord, mais c'est ça qu'on aime aussi.
C'est ça.
Et donc là, avec ton fils, quelle éducation est-ce que tu veux lui donner par rapport à ce monde, par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui?
Déjà, mon fils, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je prends la parole, c'est que je lui dois ça. J'ai pas envie que demain il me dise, mais toi, qu'est-ce que tu as fait en fait pour améliorer les choses? Et qu'il me dise, t'as rien fait, quoi, t'es resté immobile. Enfin voilà, donc déjà, mon fils, c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui. Je pense qu'on a un rôle à jouer, nous, en tant qu'enfants d'immigrés, parce que, on est la génération qui prend de la place et qui commence à déranger, qui est là, qui a une voix, qui veut se faire entendre. Et on a été éduqués par des parents qui faisaient profil bas, chose que nous, on ne fait plus aujourd'hui. Et je pense qu'il faut donner cette confiance et cette assurance à nos enfants de dire « tu es à ta place ». Et de plus jamais laisser personne les renvoyer à leurs origines, à leur religion, peu importe. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, notamment avec la loi séparatisme, on est dans une actualité hyper brûlante qui fait que… Enfin, moi, je me dis demain, moi étant musulmane, je me dis donc demain, je ne peux pas accompagner, si je mets le voile, je ne peux pas accompagner mon fils en sortie. Et c'est dramatique, quoi. On te coupe un pan de ton éducation, on te coupe de ton rôle de mère à l'école, quoi. C'est assez horrible. Et du coup, c'est pour ça que mon fils, j'ai envie de l'éduquer dans la connaissance et dans la conscience de tout ça, dans la conscience de ce qu'est le racisme. Moi, je n'ai pas envie que demain, mon fils, il rentre et me dise, on m'a dit ça. Je veux qu'il ait les armes, en fait, et qu'il comprenne que ceux qui s'en prendraient à lui sont ridicules et qu'il peut lutter contre ça et ne pas être la victime comme moi je l'ai été plus jeune. J'ai des souvenirs en Corse hyper violents, quoi, où on me disait, enfin clairement, enfin tu te dis, bon, j'étais en primaire, donc les enfants les plus vieux avaient 10 ans et où on te dit, t'as 6-7 ans, on te dit ça à l'arabe, c'est hyper c'est violent. Ouais, c'est hyper violent et j'ai pas envie que mon fils vive ça, même si je le sais qu'il va le vivre. Je le sais qu'il va le vivre, mais j'ai envie de le préparer à être armé contre tout ça, quoi.
Ouais, et puis c'est quelque chose qui est super important parce que nous, dans notre éducation, enfin, j'ai parlé pour moi plutôt, souvent on nous disait tu laisses couler, c'est pas grave. Il t'a traité de sale noir, tu lui dis c'est un blanc bec. Enfin, tu vois, ça n'a pas du tout les mêmes répercussions. Et le fait de conscientiser nos enfants le plus tôt possible, c'est sûr qu'ils vont en souffrir. Quand même, clairement, ils vont en souffrir parce que quand tu as ton enfant de 4 ans qui rentre de l'école et qui dit ils ont été méchants avec moi, ils m'ont dit que j'étais moche, que mes cheveux n'étaient pas beaux, des choses comme ça, ça lui fait mal, ça te fait mal à toi aussi. Mais ça reste quand même important, comme tu as dit, de leur donner les armes et qu'ils sachent en fait que ce comportement n'est pas normal et qu'ils ne doivent pas le laisser couler et laisser passer parce que ce n'est pas juste. Et qu'ils ont leur place ici tout autant qu'eux. Certes, on n'a pas la même couleur de peau, on a des origines qui sont différentes, mais on est français.
C'est ça. Et je pense qu'il y a aussi un double travail, c'est-à-dire qu'on a nos enfants de notre côté, mais on a aussi l'école. Je pense qu'en tant que parents racisés, on doit être hyper, hyper, hyper vigilant avec ce qui se dit à l'école, les comptines, même les comptines. Enfin, moi, j'ai vu des comptines, mais tellement racistes. Aujourd'hui, on s'en rend compte avec le recul et tu te dis, mais j'ai chanté ça. Mais c'est un truc de fou et je ne peux pas laisser passer ça. Donc, alors ouais, on va être les parents relous. Moi, de toute façon, c'est ce que je disais à ma famille. Je disais, oh là là, mais oh, la flemme, la maman que je vais être, la maman relou que je vais être à l'école. Mais clairement, en fait, c'est hyper important d'être vigilant par rapport à ça, par rapport aux histoires qui sont lues, par rapport à tout ce qui est dit. Par exemple, j'ai croisé sur les réseaux sociaux des exercices qui disaient « La colonisation a apporté la civilisation à l'Afrique ». Oui. C'est des trucs, il faut être ultra vigilant et il ne faut pas laisser passer parce que c'est comme ça que tu conscientises tout ça. Et je pense qu'il y a aussi tout un travail de suivi de tout ce qui se dit, quoi,
à l'école. Et même plus tôt que ça, parce que par exemple, j'ai une de mes amies, elle est d'origine marocaine et son mari est d'origine sénégalaise, donc leur fille est métisse. Et à l'école, on leur a demandé de faire un autoportrait. Et donc, ils devaient se peindre. Donc, elle a pris du marron, elle a commencé à se peindre. Et les enfants lui ont dit, ah, mais c'est moche, ce marron. Nous, on est rose, toi, t'es marron. Tu vois, c'est moche. Enfin, voilà. La petite, elle rentre à la maison en pleurant, en disant, maman, je suis moche. Voilà. Et sa mère, ce qu'elle a fait, et ce que j'ai trouvé génial, c'est que, en fait, elle essaie vraiment de l'éduquer par les livres. Et puis, en lui disant, voilà, t'es belle, t'as des beaux cheveux, ta peau, elle est pas marron, elle est dorée, tu vois, couleur or, des choses comme ça. Et elle est partie voir la maîtresse. Elle lui a donné un livre qui explique la couleur de peau, les différences de couleur de peau aux enfants. Et la maîtresse l'a lu aux enfants.
C'est génial.
Voilà. Et la petite, elle a 4-5 ans, quoi. Et tu te dis, si tu fais des petits gestes comme ça, et là, tu passes même pas pour la maman relou, tu vois. C'est juste, on est là pour apprendre aux enfants. On est ensemble. On est en mode chill, quoi. Et ça permet aussi aux autres enfants de se rendre compte que, il y a des enfants qui sont différents, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément moches, quoi.
Oui, je suis totalement d'accord avec toi. D'autant plus qu'en fait, en France, on a ce truc de, tu sais, color blindness, on appelle ça, où non, on ne voit pas les couleurs, Non, alors que non, en fait, on vit des expériences selon la couleur de peau, selon comment on est perçu, etc., etc. Et je pense que, il y a tout un travail à faire dessus. Et en l'occurrence, un livre qui explique les différentes couleurs et le fait que, au final, ça ne change absolument rien, je trouve ça super ce qu'elle a fait, ton amie. C'est génial. Et c'est bien d'être en fait force de proposition, parce qu'en fait, on ne peut pas rester là et juste se dire non, mais c'est pas grave, mais laisse couler, etc. etc. C'est vraiment politique en fait. C'est politique. Tout ce qu'on fait dans notre vie de toute façon est politique. Et laisser couler des choses comme ça, ça aura des répercussions que nous, on a vécues. Et qu'on a un bagage émotionnel et on a des traumas, même si voilà, c'est dur à accepter. On sait qu'on a eu des occasions manquées par rapport à ça, on sait qu'on a été mal orienté, on sait qu'on a été jugé beaucoup plus durement que les autres, etc. À nous de protéger nos enfants aujourd'hui, quoi.
Ouais. Non, clairement, clairement. Et bah, justement, parlant de tout ça, donc toi, ton fils, bon, il est encore petit, il a 20 mois, mais quand même, il a la triple culture, la culture marocaine, la culture japonaise et la culture française. Comment est-ce que vous faites au quotidien pour brasser, transmettre toutes vos cultures avec ton mari ?
Alors, donc moi, je vis près de mes parents, donc c'est la raison pour laquelle on a déménagé à Montpellier, c'est qu'on voulait être à côté de la famille. Donc, mes parents lui parlent marocain, on lui fait écouter des chansons marocaines, voilà. Et il a d'ailleurs beaucoup plus de facilité avec le marocain qu'avec le reste, ce qui est très drôle parce qu'en fait, physiquement, en fait, il fait asiatique et du coup, il adore genre le raï algérien, il adore les chansons marocaines, c'est trop drôle. Alors, tous les matins, il nous demande de mettre de la musique. Voilà, arabe, enfin maghrébine plutôt. Et à côté de ça, on lui fait écouter aussi des comptines japonaises. Son papa lui a pris des imagiers où il va lui dire quelques petits mots japonais, etc. etc. Et puis après, ben, on parle français tous les jours. Mais ce qui est assez incroyable, en fait, c'est qu'il arrive à... Enfin, je sais pas comment ça se fait dans son cerveau, mais c'est assez fou parce qu'en fait, il arrive à s'adapter et il comprend tout, en fait. Oui. Et quand on dit que les enfants sont des éponges, c'est assez fou, quoi. Il comprend, peu importe la langue dans laquelle on va lui parler, il va comprendre, quoi.
Non, c'est fou. C'est vrai qu'on réalise pas, en fait, mais moi, j'avais vu ça avec une amie de mon mari qui est lituanienne et son fils, il a 2 ans. Ouais. Donc, des fois, tu les vois, les deux, ils sont en train de parler lituanien. Normal. Après, ils se retournent et nous parlent en français. Tu te dis, mais c'est ça, comment tu fais le switch, en fait? Et c'est la différence qu'on a, nous, par rapport à nos parents, où on nous dit, où on disait à nos parents, non, ne leur parlez pas la langue, parce que sinon, les enfants, ils ne vont pas être... Exactement, pas bien parler français, ils vont avoir des problèmes d'assimilation, etc. Il ne faut leur parler que français. Et quand tu vois des exemples comme ça, bah, tu te dis que non, en fait, pas du tout, et bien au contraire. Et bien au contraire.
Toi, du coup, tu n'as pas appris ta langue maternelle, toi ?
Non, quand j'étais petite, mes parents ne me parlaient pas du tout. Ma langue maternelle, c'est le mandingue, ils ne parlaient pas du tout en mandingue, même si on me demandait, ma mère, enfin, après, elle a eu la flemme, quoi. Donc, elle disait non. Et c'est en faisant moi-même mes voyages au Sénégal et en Gambie que j'ai appris, en côtoyant ma grand-mère qui a quand même fait des allers-retours et qui, elle, comprend très bien le français, hein, mais elle n'a pas envie. Voilà, elle n'a pas envie et donc au final c'est en parlant aussi avec elle, j'ai des petits frères qui sont en Afrique, en parlant avec mes petits frères qui sont en Afrique que ben, voilà, j'ai réussi à comprendre, je comprenais déjà, mais déjà à mieux parler ma langue. En fait, justement parce que ma mère, on lui disait bah, non, en fait, il ne faut pas leur parler la langue, il faut leur parler français. Et ça lui est resté, je pense que ça lui a fait mal quand même quelque part et bien c'est sûr. Resté quoi.
Oui, bien sûr, moi aussi, mes parents, on leur a dit ça. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que, à mon avis, si nos parents parlaient anglais, on leur aurait pas dit ça, quoi.
Bien au contraire.
Tu vois, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'en fait, ils ont coupé nos racines, en quelque sorte. Au moins, mes parents continuent à me parler, ils parlent marocain et français, ils continuent à me parler marocain. Mais c'est vrai qu'ils parlaient plus français que marocain. Moi, j'allais au Maroc l'été pendant 2 mois, donc voilà, j'entendais parler, tout ça, donc pas de soucis, mais c'est vrai que j'ai appris marocain sur le tard. Et aujourd'hui, pour moi, c'est impératif que mon fils parle la langue et soit baigné dans sa culture marocaine. Ça, c'est évident. Et alors, dans les pays, apparemment, enfin en Angleterre, ils disent ne leur parlez pas du tout anglais, en fait, jusqu'à 3 ans, jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école, parlez leur langue, et puis ils apprendront de toute façon à l'école. Donc, tu vois, la différence, elle est assez dingue, quoi.
Ouais. Après, les pays anglo-saxons, ils ont leurs caractéristiques et leurs mauvais côtés, mais de ce côté-là, pour l'assimilation de la culture, le développement des cultures, pour ça, surtout en Angleterre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit en France. Quoi.
Ben, c'est deux politiques différentes, justement. Tu dis assimilation, la France, c'est l'assimilation, c'est-à-dire que tu effaces tout pour entrer dans le moule, alors que l'Angleterre, c'est plus, on va dire, un melting pot, quoi, genre il n'y a pas de souci, fais-la concorder avec ton identité
anglaise,
quoi.
Ouais. Bon, c'est ce qui nous manque. J'espère que ça arrivera un jour, mais bon, vu comment ça se passe en ce moment, je doute un peu. Ouais. Enfin bref, en quoi est-ce que devenir maman a changé ta vision de l'engagement?
Ben, ça m'a donné une impulsion de dingue, quoi. Ça m'a donné une impulsion de dingue et une force et une colère aussi. Ouais. Une colère. En fait, j'ai toujours eu, tu vois, l'espèce de syndrome du justicier. Je pense que, je crois que c'est les aînés des fratries qui sont toujours des justiciers, en fait. Parce que, genre, tu vois qu'il y a un traitement de faveur pour les plus petits, tu vois. Du coup, t'es épris de justice. Du coup, j'ai toujours cultivé ce truc où je remettais toujours les choses en question et l'ordre en question de façon globale, sans être une rebelle ou quoi. C'est juste, j'ai toujours eu ce truc où je mettais beaucoup les choses en question. Et je sais pas, en fait, devenir maman, ça allumait un feu politique, en fait. Un feu engagé où je me dis, faut que je fasse changer les choses pour mon fils, quoi.
Et comment est-ce que tu vis au quotidien ton engagement écolo avec ton fils ?
Bon, moi, j'ai un mode de vie écolo depuis des années. Donc, les produits que j'utilise, ce que j'utilise sur lui, etc., je fais vachement, vachement attention. Maintenant, c'est devenu naturel, en fait, pour moi. Ce qui est un effort, c'est plus de devoir faire des pas en arrière. Après, pour être tout à fait transparente et honnête, avec la maternité, ma charge mentale, elle en a pris forcément un coup. Beaucoup plus élevé et c'est vrai que j'ai reculé écologiquement parlant parce que charge mentale et charge morale, la charge morale c'est la charge écologique en fait et qui repose très souvent sur la femme comme la charge mentale et du coup c'est vrai que j'ai fait quelques pas en arrière. Par exemple, un truc vraiment bidon, mais ça faisait des années que j'utilisais plus de sopalin et là avec un bébé je suis obligée d'avoir du sopalin à disposition parce que je n'ai pas le temps de laver à chaque fois les chiffons, les serviettes, tout ça. Pareil, je m'étais imaginé utiliser des couches lavables, mais je n'ai pas le temps. Clairement, voilà, ma santé mentale avant tout et mon temps aussi, parce que voilà, je travaille de chez moi, j'ai mon bébé 6 jours sur 7, j'ai qu'un seul jour de crèche, donc clairement, voilà, je fais au mieux. Après, effectivement, je pense que c'est bon, il est encore petit et tout pour avoir ces valeurs-là, mais lui distiller vraiment des choses dès le départ, c'est-à-dire couper l'eau quand il est dans le bain, couper l'eau quand il se brossera les dents, enfin en tout cas qui le fera avec plaisir parce que pour le moment
c'est la bagarre.
Alors moi quand j'ai vu une dent, à partir du moment où il a une dent faut lui brosser les dents, là je sais pas combien il en a et je suis en galère, je me dis je suis une mère indigne.
Non, t'inquiète pas, franchement il a toutes ses dents, mais le brossage des dents, voilà, c'est quand on y pense, quoi.
C'est chaud. Donc ouais, non, je fais attention. Voilà, tu vois, il y a plein de petits gestes qui sont naturels chez nous aujourd'hui. Et même l'alimentation, elle est au maximum végétale, même si il n'est pas végétarien. Je lui donne de la viande et tout. Mais voilà, je pense lui expliquer au fur et à mesure toutes ces choses qui sont importantes. Et je veux que ça soit des automatismes, en fait, pour lui. Tu vois, c'est comme ça que je vais lui instiller une conscience écologique. Et puis après, quand il sera plus grand, je pense que je passerai par les livres parce que je trouve que les livres, c'est un support génial avec les enfants. Là, par exemple, j'ai pris un livre qui m'a aidée pour la crèche et vraiment, c'est fou, quoi, le pouvoir qu'ont les histoires sur nos enfants. Et c'est comme ça, je pense, que ça va évoluer. Et puis après, en le faisant prendre conscience de plein de choses différentes, quoi.
D'accord, ouais, c'est top. Et j'ai deux dernières questions, donc ce sont les questions que je pose toujours à mes interviewés. La première, c'est: est-ce que tu as une anecdote ou un conseil te concernant toi et ta maman à nous partager ?
Alors, le conseil, c'est de pouvoir être entourée de sa maman, si c'est possible, quand on accouche, parce que moi, j'ai eu cette chance-là. Ma maman est restée 6 mois avec nous. c'était merveilleux. Ça a été une aide considérable et je pense que si j'ai bien vécu mon post-partum, c'est grâce à elle et grâce aussi à mon mari qui est resté aussi très longtemps à mes côtés. Voilà, s'entourer de sa maman si possible, prendre ses conseils, même si parfois les conseils sont un peu chelous et ils sont dans un autre temps, tu vois. Donc, vivre cette aventure, enfin, vivre la naissance de mon enfant et les premières semaines auprès de ma mère, ça a été extra, quoi. Vraiment extra et je la remercierai jamais assez. Et encore aujourd'hui, elle est là pour moi, vu que je l'ai collée et que je l'ai suivie à Montpellier. Elle n'a pas d'échappatoire. Mais ouais, si on en a l'occasion, ou tout du moins une figure féminine de qui on est proche, que ce soit une tata, une grand-mère, ou même une belle-mère, hein, si on est proche de sa belle-mère, c'est mon conseil, c'est génial, quoi.
Ok, on note. Et surtout, accepter quand même les conseils, même si ils viennent d'un autre temps. Voilà, on dit oui, d'accord, c'est gentil, merci, je vais le faire. Et puis après, on fait comme on veut, quoi. On connaît. Et la dernière question, c'est est-ce que tu te souviens de quand est-ce que tu t'es sentie devenir mère?
Alors, moi, je me suis pas. En fait, bon, déjà, ma grossesse, c'était une surprise totale. C'était pas du tout planifié. Genre, ça m'a cassé mes plans, tu vois. Je me souviens, j'ai appris que j'étais enceinte 10 jours avant d'aller en vacances en Thaïlande. Et alors, mes vacances en Thaïlande, premier trimestre, mais j'ai haï. Mais
Ah
vraiment,
là
j'ai
là, bah
haï.
oui.
Ah ouais, c'était horrible en fait. Genre, j'avais l'odorat hyper développé. Je sentais toutes les odeurs. Genre, je sentais les flaques d'eau. Je me souviens que je sentais l'odeur des flaques d'eau. C'était horrible. Et du coup, non, c'était une grossesse surprise, bon,
Ouais.
que j'ai acceptée, il n'y a pas de souci, puisque finalement, voilà, on était arrivés à maturité dans notre décision aussi d'avoir un enfant avec mon mari. Et du coup, voilà, j'ai vécu ma grossesse, tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas eu le truc, genre, je vais devenir mère. J'étais une femme enceinte. Voilà, j'ai accouché, j'étais une femme qui avait accouché. J'ai vu mon bébé, bien sûr, je l'ai trouvé le plus beau du monde et j'étais hyper
Ah
émue et tout.
oui.
Mais je pense que la conscience de ma maternité, elle est arrivée dans les gestes quotidiens, le fait de mettre tout ça en place, tu vois, de l'allaiter, de le changer, de passer du temps avec lui, vraiment collé. On a fait du cododo, on fait toujours du cododo. D'ailleurs, je ne veux pas me séparer de mon enfant.
Ah.
Et du coup, c'est dans ces gestes-là que je suis devenue, que je me suis sentie devenir maman, pardon. C'est super que tu poses cette question parce que je pense qu'il y a un vrai tabou. Tu sais, on a cette narration qui dit oui, dès que j'ai posé le regard sur lui, je suis devenue maman. Et puis il y a des femmes qui se sentent maman dès qu'elles le savent,
Ouais.
en fait, dès qu'elles font le test de grossesse. Donc c'est bien de diversifier un petit peu ces narrations et de se dire que c'est totalement OK de ne pas se sentir maman dès le départ, quoi.
Ouais, parce que comment dire, moi c'est pareil, ça m'est arrivé sur le tard. Et quand on me disait alors comment tu sens, tu te sens comme une maman, je disais non, en fait je me sens un peu comme la nounou.
Oui,
Je disais
mais
ah
grave.
voilà, je disais ah bon, comme la nounou, genre la honte, mais t'étais une mauvaise mère, des choses comme ça. Et je trouve ça hyper culpabilisant en fait. Tu te dis mais non, ça peut arriver un petit peu après. Enfin, et au final même, je me rends compte que ça arrive même plus après qu'au moment de l'accouchement ou avant l'accouchement, tu vois. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément. Donc, les gens, ceux qui n'ont pas d'enfants ne s'en rendent pas forcément compte. Et ceux qui ont des enfants qui sont un peu plus âgés ne se rappellent peut-être pas forcément aussi de ça. Et je trouve ça dommage aussi parce que c'est déjà compliqué d'être une jeune maman, d'apprendre tout ça, mais qu'en plus, et d'avoir une certaine culpabilité pour beaucoup de choses, mais qu'on t'apporte en plus une culpabilité sur ta légitimité à te sentir être mère.
Je suis totalement d'accord. Et pour te dire, moi aussi j'avais le sentiment, genre, tu vois, je le regardais comme ça, je me disais, mais attends, c'est mon enfant, genre. C'est trop bizarre, genre, je trouvais ça trop bizarre. Je me disais, mais attends, je m'occupe de lui et tout, mais enfin, c'est bizarre. Ce que tu disais, pardon, par rapport à la culpabilité, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu deviens maman, mais
Ouais.
alors cette culpabilité, tu vas la porter tout du
Toute
long.
ta
Et en fait,
vie.
on dirait que tu prends une position en mode, ok, jugez-moi. Les gens se sentent obligés de
Ouais.
te juger en tant que maman. Donc ouais, faut l'accepter, ça fait partie du job, hein.
C'est clair. Mais même en étant enceinte.
Ah, mais c'est clairement ça.
Ouais.
Quand à partir du moment où tu es enceinte, ton corps ne t'appartient plus, tes choix ne t'appartiennent plus. De toute façon, on les remettra toujours en question. Tu allaites, on va dire que c'est chelou. Tu allaites pas, on va te dire c'est
Ouais.
chelou. Si tu fais du cododo, on va dire c'est chelou. Tu fais pas de cododo, on va dire c'est chelou. Enfin, tu vois, tu es toujours soumise en fait au regard des gens. Mais franchement, faut apprendre à s'en détacher, même si
Ouais.
c'est pas facile. Hein. Moi, je crois que la culpabilité fait partie aujourd'hui. C'est un trait de caractère en fait. Hein. C'est là tous les jours. Mais voilà, faut apprendre à vivre avec quoi.
C'est clair, c'est une évolution quoi. On n'a pas le choix. Bon, en tout cas, Asma, on arrive à la fin de cet épisode. Je te
Bon, mais
remercie.
c'est vite.
Ouais, c'est passé vite. Je te remercie vraiment pour cet entretien. C'était vraiment cool. Je trouve que ça change un petit peu des sujets que j'aborde habituellement, mais ça reste quand même nécessaire. Ça reste très nécessaire parce que c'est vrai que c'est beau d'être maman, c'est beau de transmettre sa culture, nanani, nanana, mais il ne faut pas oublier le monde dans lequel on vit, les difficultés qu'il y a et le fait d'avoir des personnes comme toi aussi qui n'hésitent pas à monter au front pour nous. Parce que pour moi, je trouve que c'est quand même difficile d'en parler constamment. Bah déjà, merci, merci de le faire et merci d'avoir été là aujourd'hui pour en discuter.
Merci infiniment pour ton invitation, c'était une super discussion. Et écoute, si ça peut donner un peu de force, un peu de courage aux mamans racisées qui te suivent, moi j'ai gagné quoi. C'est
Ah,
je tout ce que je fais, c'est pour nous donner de la force et pour qu'on se sente légitime et que pour nos enfants grandissent dans le meilleur environnement qui soit.
Ouais, bah j'en suis sûre en tout cas. Merci beaucoup. Et je te dis à bientôt.
À bientôt, Adja. Ciao. Bye.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, là-bas je partage des phrases de motivation, des astuces au quotidien, on discute et on se construit une vraie communauté. Le nom de ma page est Ayonene Podcast. À tout de suite.